I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail? Est-ce une source d'épanouissement et d'enthousiasme ou plutôt une cause de stress et de démotivation? Alors si vous vous reconnaissez plutôt dans la deuxième catégorie, si chaque semaine par exemple vous attendez avec impatience le week-end ou les prochaines vacances, alors je vous recommande vraiment chaudement le Parcours Chance. Vous le savez, un partenaire fidèle de Métamorphose. Parce que la vie est trop courte pour être gaspillée dans un travail qui ne vous convient plus. Chance, c'est bien plus qu'une simple plateforme, c'est une communauté d'entraide professionnelle déterminée à vous aider à retrouver votre place dans le monde du travail. La méthode de la communauté Chance est unique et éprouvée. En seulement 3 mois, vous pourrez redéfinir vos objectifs professionnels et retrouver ce qui vous passionne vraiment avec l'accompagnement d'un coach professionnel dédié. Si ce message trouve écho en vous, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Rendez-vous sur le site chance.co pour bénéficier d'un entretien gratuit avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences.
Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.
Aujourd'hui, avec mon invité, nous allons nous poser la question d'élargir ou de rétrécir sa vie. Et pour ça, questionner les rôles ou le grand rôle que nous jouons inconsciemment dans notre vie, mais aussi de ceux de nos personnages qui parfois prennent tellement de place qu'ils nous font souffrir. Nous allons explorer comment passer du monde du « ou » au monde du « et » pour basculer vers une forme plus inclusive et moins exclusive de nos masques et personnages en tout genre. Mon invité est l'un des penseurs contemporains les plus décapants et inattendus de notre époque, qui aide des milliers de personnes à accéder à des parts de soi jusqu'alors méconnues. Il est l'auteur de ce livre aux éditions Erol qui s'intitule « Ton autre vie » que vous connaissez bien, j'imagine, maintenant. Je suis ravie, vous l'aurez reconnu évidemment, d'accueillir à nouveau Franck Lobvet dans Métamorphose. Bonjour Franck.
Bonjour Anne.
Alors on va parler aujourd'hui de ce grand sujet, on va apprendre un peu à mieux connaître ces règles du jeu du « et » et du « ou ». Alors quand c'est dit comme ça « et » ou », peut-être ça ne parle pas forcément directement aux gens. Alors est-ce que tu peux nous parler de ce monde du « ou » ? Et comment est-ce qu'il prend finalement racine dans nos enfances, notre éducation? Et comment se met en place un peu ce conditionnement un peu exclusif?
Je peux retracer un petit bout de chemin de comment on est arrivé au monde du « ou ». Alors pour clarifier tout de suite avec tous nos auditeurs, quand je parle du monde du « ou », je parle du monde où la dualité doit toujours être dressée l'une face à l'autre, comme en constante opposition. Je parle du monde du « ou » lorsque je veux décrire le système qui nous emmène tout le temps à devoir choisir positif, négatif, noir ou blanc, vrai ou faux. Là où la vie nous offre en général beaucoup plus de nuances, de lectures, d'angles de vue qui nous permettent de remettre en cause ces certitudes à propos de ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est correct, incorrect, etc., etc. Donc, quand on parle du monde du où, je parle de ce monde-là. Je dis aussi, je fais délibérément une petite tentative en parlant du monde du « ou » et du monde de « et », de dire en fait que le monde du « ou » ce serait comme un ancien monde et le monde du « et », le monde qui se propose et auquel on va devoir de toute façon apprendre à jouer avec ces règles-là, quoi. Enfin, disons qu'on va être obligé de s'adapter à ce monde du « et », de ce que je regarde.
Alors justement, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple du monde du « et », par exemple, dans la vie de quelqu'un? Tiens, si on prenait un cas d'école que tu as pu entendre, toi, dans tes causeries, etc., où on est, puis on l'est tous, hein, pas la peine de prendre quelqu'un d'autre, on peut prendre nous-mêmes, mais où on est dans le « et ».
Oui, bien sûr. Bah, en fait, ça, c'est extrêmement facile. En tout cas, quand je parle de moi, je peux facilement faire du « et ». Je suis capable d'aller voir chez moi l'homme qui est ceci et cela simultanément sans avoir à choisir entre les deux. C'est-à-dire que je ne peux plus me considérer comme étant quelqu'un de monolithique avec une seule facette, type je suis sincère comme si je ne mentais jamais, je suis courageux comme si j'étais jamais feignant ou lâche, je suis généreux comme si je ne pouvais pas connaître le franc cradin, etc., etc. Donc c'est très facile, on l'a sous le nez. La difficulté, en fait, c'est que d'accepter d'être quelque chose et son contraire nous fait perdre la solidité du personnage de fiction qu'on exporte et qu'on vend au monde contre amour, like, attention, etc., etc.
Alors souvent, en fait, on n'a pas conscience qu'on est enfermé dans une forme d'identification qui est limitante, qui nous met en souffrance, car on ne voit pas, en fait, comme on colle au personnage, on n'arrive pas à décoller et à voir ce qui se joue à l'intérieur de nous.
C'est vrai que c'est toujours plus difficile de voir à l'intérieur de soi. Pour moi, en fait, je ne suis pas allé voir si j'étais radin ou allé voir si j'étais menteur ou lâche ou feignant. J'ai appliqué la règle. C'est-à-dire que je me suis dit que sur une planète comme la nôtre, qui est un monde relatif où les choses existent par rapport à ce qu'elles ne sont pas, c'est-à-dire le grand existe par rapport au petit, le gros par rapport au mince, et ainsi de suite, je me suis dit en fait que je ne pouvais être une chose que si l'autre était également chez moi. Donc si tu veux, je suis parti de la règle du jeu et je l'ai appliquée, qu'elle me plaise ou non. Parce que sinon, en fait, j'y vais en mode introspection, en cherchant en moi s'il n'y aurait pas une part d'eux, et là, c'est la valse des petits arrangements, des petits mensonges avec soi, des petits business. Et en général, ça devient très compliqué de se voir, dans la mesure où on a été dressé à incarner le bien. Donc, tout ce qu'on qualifiera de défaut ou de mal sera évacué, édulcoré, etc.
Alors, tu parles...
Je vais finir toutes mes phrases par etc.
C'est le jour, etc.
Voilà, c'est ça. C'est le monde du « et ».
C'est le monde du « et ». Alors, tu parles aussi d'arrêter de... Par rapport à ce que tu viens de dire, il y a une question qui venait, hein, qui est cette question de la transcendance du soi, mais on y reviendra tout à l'heure. Toi, tu parles d'arrêter de se battre contre notre personnage. Inconsciemment, en fait, on veut absolument coller justement à cette identification. Et que là, il y a quelque chose à lâcher, d'une certaine manière.
Ben, je pense, oui. Par exemple, j'étais en train de discuter avec ma sœur au téléphone il y a quelques jours, et je me mettais en colère. Et elle me dit, ouais, machin, mais avec les vidéos que tu fais, elle vit au Mexique, elle est vaguement au courant quand même de ce que je fais, avec les vidéos que tu fais, tu peux pas parler comme ça, faut quand même être cohérent, si t'es pas cohérent avec ton image, mais alors du coup ça tient pas la route.
Et vachement intéressant comme cas là.
Oui, c'est intéressant parce que voilà, c'est une anecdote familiale, et puis moi je suis parti en vrille sur une connerie, hein, j'ai fait une crise d'ego, enfin un truc de base. Mais ce qui était intéressant, c'est que même elle qui entend ce son depuis une paire d'années, etc., a vraiment besoin, venant de moi, que je colle à un personnage qui est celui qu'elle a fabriqué de son petit frère. Et son modèle de petit frère ne doit pas changer, il doit être cohérent, il doit être congruent. On n'a pas le droit, vis-à-vis des gens qui nous entourent, de se mettre à incarner quelque chose qui pourrait leur paraître dissonant dans l'image qu'on met en place. Alors que non, je peux dire tout ce que je dis en vidéo et je peux encore être un con, je peux encore me tromper, je peux encore faire des crises d'ego, et j'ai aucun désir d'être un type tellement congruent qu'il s'empêche de ressentir ce qu'il ressent.
Oui, parce que c'est vrai que, tu vois, ton exemple est vraiment intéressant. On l'entend très souvent dans les milieux du développement personnel. Je reprends ton exemple en disant, il fait tout ça. Et franchement, il n'est pas super aligné, en fait, dans la vraie vie.
Oui, mais je pense qu'au contraire, être aligné, c'est savoir faire respirer toutes les parts de son humain en arrêtant d'être dans un contrôle systématique et une forme de flicage de la pensée et de l'attitude qui nous empêche de ressentir ce qu'on ressent, mais nous pousse à devoir avoir une sorte de ressenti sur mesure qui sont les ressentis qu'on doit avoir lorsqu'on incarne ce type de personnage. Parce que ça marche aussi dans l'autre sens, tu vois, si tu veux, une personne, par exemple, qui a pris l'habitude d'être la personne qu'on rejette, parce que elle a identifié ou elle a lu le mauvais bouquin et elle a fait d'elle le personnage qu'on rejette, qu'on n'écoute pas, dont on ne veut pas, qu'on ne désire pas, qui est la cinquième roue du carrosse ou le second choix, etc., etc. Et bien, cette personne va également avoir du mal à prendre bien les choses lorsqu'elle en a l'occasion, parce que, en fait, le désir d'être cohérent avec sa souffrance habituelle, avec son marasme habituel, va la pousser à, une fois de plus, choisir d'une manière totalement inconsciente, d'être celle qu'on rejette, de prendre les choses comme ça. Donc, on colle à nos images positives, mais on colle aussi à nos images négatives, si on a envie de le formuler comme ça.
Oui. Mais c'est vrai que parfois, on peut aspirer à la transcendance dans le sens où on a envie de se dire « Oh là, mais ce mécanisme que je viens de voir chez moi, c'est un truc qui est puant, quoi. J'ai plus envie de le voir, ça me fait souffrir. » Et finalement, j'en ai bien conscience, je le vois, mais j'ai plus envie de rejouer cette palette de... Si on pense à une palette de couleurs, j'ai plus envie forcément d'avoir cette couleur qui revient systématiquement. Qu'est-ce qu'il y a à vivre dans ce cas-là ?
Il y a plusieurs notions là, dans ce que tu proposes. Il y a effectivement dans ma façon de travailler, le seul moyen de transcender quelque chose, c'est de l'incarner. C'est-à-dire que si je veux me débarrasser d'une de mes parts, je vais devoir la reconnaître, l'accepter comme étant part de moi. Et si je lui laisse le droit d'être et le droit de respirer, elle ne se met plus à agir malgré moi, à montrer le bout de son nez à la moindre occasion, à tenter en fait d'être reconnue en cherchant à surgir dans chacune situation de ma vie. Une version de moi qui est connue, reconnue, intégrée, digérée, acceptée, n'a pas besoin de s'agiter de manière à entrer dans mon champ de conscience. Donc déjà, pour moi, la transcendance, elle ne marche pas dans un désir de se débarrasser d'une attitude ou de se débarrasser d'une énergie, mais bel et bien de la reconnaître comme étant à soi et ayant une place. Cela dit, ce qui rend tout ça difficile, c'est justement que lorsqu'on est dans le monde du « ou », on croit que être quelque chose exclut son inverse de ce que nous sommes. Découvrir que nous sommes un menteur nous fait croire que nous ne sommes pas capables de franchise. Et c'est là que le monde du « est » devient intéressant. Je suis capable de mentir, d'arranger les situations, de tricher, comme chacun peut avoir besoin de le faire pour continuer d'être la bonne personne aux yeux du monde, mais ça ne m'empêche pas d'être tout à fait capable de la plus grande franchise et du courage nécessaire à la sincérité. Du coup, déjà il y a cet aspect-là, c'est-à-dire je n'ai pas besoin de me débarrasser de quelque chose, je préfère agrandir ma palette, je préfère donner à Franck la possibilité d'être tour à tour fiable ou lâche, au rendez-vous, pas au rendez-vous, etc., etc., et de pouvoir garder pour moi la plus grande palette d'attitudes et de ressentis possibles dans ma vie. Mais il y a encore une deuxième notion qui se cache en dessous, c'est qu'on a pris l'habitude de qualifier le monde en positif ou négatif, et on va considérer certaines énergies comme étant à évacuer, à guérir et gênantes, et d'autres comme étant bienvenues, rapportant tout à fait son lot d'attention et d'amour, donc comme étant correctes. Moi, je pense que ce qu'on a pris l'habitude de qualifier en termes d'attitude, en termes d'émotion, ne sont au fond en fait que des énergies ressenties et que ces énergies ont un double aspect, positif et négatif. Donc, je vais prendre un exemple. Je vais peut-être te resservir l'exemple du livre que Ton autre vie, dans lequel je parle par exemple de l'énergie de la séduction. Pour celui qui va qualifier ça de positif et l'accepter pour lui, le reconnaître comme étant à soi, il va pouvoir devenir séduisant. Celui, en fait, qui va chercher la transcendance, c'est-à-dire chercher à évacuer ça, parce que la séduction va être qualifiée de superficielle, de dangereuse ou quoi que ce soit, va continuer d'être ce qu'il est, donc continuer d'utiliser cette énergie, mais à son insu. Et là, ça va faire de cette personne une personne qui sera séductrice ou séducteur. Ça n'est pas du tout la même chose que d'être séduisant ou séduisante. C'est-à-dire qu'il y en a un où l'énergie est sur le dessus de la table, elle est claire, elle est posée, elle est reconnue et acceptée. Et l'autre, elle est qualifiée de défaut, donc cachée, mise en déni, dans une tentative de l'évacuer, de la guérir ou de la transcender. Et elle va continuer d'agir à notre insu. Donc c'est là que pour moi le monde du « ou » arrive à son terme, on se rend compte en fait qu'on ne peut pas faire du « ou ». C'est-à-dire que le « ou » c'est un espèce de fantasme humain où on croit qu'on peut choisir le bien à l'exclusion du mal, incarner la lumière à l'exclusion de l'ombre et ainsi de suite. Donc le « ou » pour moi est un fantasme, la réalité de ce monde est duale, c'est-à-dire que toi comme moi nous sommes assis sur une chaise qui est faite de vide et tout ceci nous convient parfaitement.
Conclusion.
Excuse-moi, mais c'est parce que je prends souvent cet exemple de la chaise, mais c'est parce que je veux rappeler en fait que tout ce que l'on observe dans ce monde et la matière, y compris, sont soumis à ce jeu de positif et de négatif, et que si j'enlève les électrons négatifs qui tournent autour de leur noyau positif, ben, il ne reste plus rien de la planète. Il ne reste pas que la moitié positive, il ne reste plus rien. Ce que je sous-entends par là, c'est que de chercher à transcender, qui est le joli mot pour dire éradiquer, ce que je qualifie de défaut ou de négatif chez moi, n'aboutit qu'à éradiquer le principe moi. De vouloir évacuer le mal de soi, c'est évacuer la totalité de soi. Les deux ne vont pas l'un sans l'autre. Le monde du « ou » est un fantasme, c'est une sorte d'hologramme. La réalité est duale et on ne peut pas la séparer.
Alors, comment faire justement avec les névroses, les compulsions, etc., où là, on a envie en fait soit de les éradiquer, soit de les transcender. Ça fonctionne de la même manière que ces masques qu'on présente, c'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, quelqu'un qui fume ou qui a des addictions alimentaires, typiquement, envie de se débarrasser de ce problème-là. Comment est-ce qu'on peut remonter à la source pour comprendre en fait l'origine et apaiser quand même cette souffrance ? Est-ce que l'accueil et simplement la conscientisation suffisent ou il y a quelque chose d'autre à faire passer en termes de charge émotionnelle pour aller au-delà ?
Il y a plein de choses qui sont possibles pour se soulager, moins souffrir et sentir la vie de manière plus agréable. J'entends dans ta question que tu m'amènes sur plusieurs terrains. Tu m'amènes sur le terrain de l'émotion, où effectivement la résistance aux émotions est tout à fait liée à ces histoires de et ou de ou. C'est-à-dire que dans un monde binaire où les choses sont ceci ou cela, les émotions sont qualifiées de positives ou de négatives, et ressentir des émotions négatives est strictement interdit, donc on y résiste, donc elles prennent de la force et elles finissent par nous dévaster. Dans le monde du « et », j'ai le droit en fait de vivre des émotions désagréables et des émotions agréables, ça n'a aucune importance dans la mesure où ces émotions finalement ne sont que des moyens de guérir de mes mémoires. On l'a développé dans le livre et c'est pas le sujet de notre discussion, mais il y a effectivement cet aspect de pouvoir se donner le droit de vivre nos émotions sans chercher forcément à les qualifier. Je vais quand même préciser un peu, prenons l'exemple d'une personne qui va revivre une situation d'abandon, qui va accepter de se laisser traverser complètement par ce que ça lui fait, ressentir pleinement l'émotion que ça lui procure, plutôt que de lutter contre cet abandon, de se battre contre, d'essayer de passer à autre chose, que ça ne lui arrive plus, etc., etc. Et lorsque cette personne va accepter de revivre cet abandon, elle va permettre à sa mémoire cellulaire de s'alléger. Je reprends pas les détails, on les a dans d'autres interviews, vidéos ou bouquins.
Oui.
Mais dans ce cas, est-ce que l'émotion d'abandon, celle qui me permet donc de réparer la mémoire du petit Franck abandonné que j'aurais pu être, est-ce que lorsque cette situation d'abandon se représente, est-ce que je peux encore la qualifier de négative dans la mesure où elle est la solution à nettoyer ma mémoire de ce qu'elle a enregistré et de pouvoir regarder la vie autrement? Donc l'émotion est fortement désagréable à vivre, mais par contre elle est d'une utilité incroyable. Du coup, comment la qualifier, positive, négative? Bon, ça pose cette question-là. Il y avait autre chose aussi dans la façon que tu avais de formuler la question qui demandait est-ce que juste digérer les choses, les accepter suffit? En fait, ça ne peut pas être un effort intellectuel de dire « Ah, bah, je suis comme ça, c'est OK. » Ça va plus loin.
Oui, c'est ça, parce que parfois, certaines personnes peuvent entendre ça et la psychanalyse, par la conscience, en fait, simplement du vécu et des blessures, permettait de résoudre, mais on voit bien aujourd'hui qu'il y a besoin de cranter peut-être au-delà.
Là, en fait, c'est simplement une démarche globale, c'est-à-dire que l'accepter, c'est une démarche intellectuelle avec ma conscience, où j'accepte l'idée d'être quelque chose qui n'entre pas dans les prérogatives de mon personnage principal, c'est-à-dire j'accepte d'incarner une qualité, un défaut qui me fait perdre le fameux alignement dont on parlait au début de notre conversation, mais... effectivement, il y a d'abord cet effort de conscience, d'accepter d'être ça, mais ensuite, il y a l'émotion que ça génère chez moi, qui pourrait être acceptée également, et puis il y a, et pour moi, c'est quelque chose qui compte énormément, l'idée de se regarder agir comme tel, de se voir agir comme tel, et d'accepter cette image, de se voir faire. Parce que l'effort intellectuel sans savoir ce qu'on est en train d'essayer d'accepter me paraît complètement vain. Si je veux savoir ce que je suis en train d'essayer de digérer de qui je suis, je dois d'abord accepter de me regarder, de me voir agir comme tel, sans passer mon temps à travestir, à réarranger la réalité de manière à ce que mes défauts n'apparaissent que comme des qualités. Tu sais, c'est ce fameux truc de... lorsque nous avons des attitudes hypocrites, nous, on n'est jamais hypocrite, on a peur de blesser. Et cette façon de réarranger les mots, de dire « j'ai peur de blesser » plutôt que de reconnaître que je suis simplement faux cul, m'empêchera complètement de reconnaître mon fonctionnement. Et du coup, chercher à digérer « j'ai peur de blesser les autres » n'aboutira jamais à rien. C'est déjà un mensonge qu'on se fait, c'est déjà un édulcorant. Par contre, reconnaître que je suis hypocrite, là, effectivement, ça va me demander de regarder les choses avec beaucoup plus d'honnêteté. Et pour pouvoir les regarder avec honnêteté, je dois me rappeler que être hypocrite ne m'empêche en aucun cas d'être également un type super sincère.
Alors, pour élargir un peu tout ça et pas se rétrécir, il y a aussi peut-être à explorer du côté de son enfance. De se dire, bah, tiens, quand j'étais enfant, finalement, j'ai reçu des injonctions, j'avais envie de faire ceci, de développer cela, de rajouter peut-être ces dons, ces talents, ces qualités. Et j'ai eu des injonctions, il y avait des croyances, j'ai pas pu le faire. Et comment je peux repartir à la conquête d'un moi plus élargi par rapport à ce que j'étais?
La question est immense, mais on va la prendre par un bout. Parce que là, oui, il y a plein de choses en dessous. Si tu veux, le premier truc que j'ai envie de dire, Anne, qui est un peu hors sujet, mais c'est le fait que tu utilises le mot enfance et petite enfance qui m'emmène là. Effectivement, on a enregistré du vécu de notre enfance que l'on a... aujourd'hui, en fait, qui est dans nos peaux d'adultes est devenue une vérité, là où pour l'enfant, en fait, il ne s'agissait que d'un angle de vue d'un enfant sur une situation. Donc, un enfant vit une scène, il en tire la conclusion qu'il est ceci ou cela, donc qu'il est génial ou qu'il est nul, qu'il est abandonné ou qu'il est rejeté ou qu'il est... celui sur qui on compte, ou enfin bon, et lui, en fait, il va tirer une conclusion d'une scène par l'angle par lequel il va la prendre. Et effectivement, les conclusions qu'il va tirer à propos de lui, il va inconsciemment ensuite essayer d'y coller, c'est-à-dire que si il interprète qu'il est la pierre angulaire de la famille sur laquelle tout le monde repose, il va chercher inconsciemment toute sa vie à faire vivre ce personnage. Mmh. Si c'est un personnage d'enfant rejeté, maltraité, il passera sa vie à essayer de faire vivre ce personnage également. Donc ça, ok, on le comprend. Mais je voudrais parler de ce questionnement autour de l'enfant intérieur.
Oui.
J'en entends beaucoup parler de l'enfant intérieur. Ça m'arrive de parler d'effectivement de ces enregistrements de l'enfance, mais je voudrais rappeler un truc. Je vois parfois des gens dire « Ah, mais tu devrais parler à ton enfant intérieur et tu devrais peut-être le prendre en compte et tu devrais lui parler et tu devrais le prendre dans tes bras et tu devrais le rassurer et machin. » Franchement, Anne, j'ai un problème avec ça, quoi. L'enfant intérieur, c'est une image. Il n'y a pas d'enfant à l'intérieur. Et s'accroupir devant son enfant intérieur comme un nouveau... parents bobo à l'écoute de ne pas traumatiser son futur génial enfant bilingue, ça me saoule d'avance. J'ai pas envie de devoir m'accroupir devant des versions du petit Franck pour le prendre dans les bras et lui dire « ne t'inquiète pas, tout va bien aller, faut arrêter les conneries ». L'enfant intérieur, c'est une image. Il n'y a pas d'enfant à l'intérieur de moi, je le saurais. C'est une image qui parle, en fait, de certains enregistrements faits dans l'enfance. Si on continue avec ces histoires d'enfant intérieur et de le prendre comme ça, on va perdre tout le monde. Je pense que un homme aujourd'hui, une femme qui a 40 ans, 45 ans, 50 ans, qui se pose des questions sur sa vie, n'a pas envie de jouer des jeux de rôle qui lui paraissent débiles, comme s'accroupir devant un enfant intérieur pour le prendre dans ses bras. Je pense que cette personne, on devrait lui proposer quelque chose qui lui permet de se poser des questions sur elle ou sur lui, d'aller réfléchir, de creuser, sans être obligé d'entrer dans des versions sirupeuses, quasi new age, de s'agenouiller devant l'enfant intérieur qu'il fut.
Tu trouves ça infantilisant ?
Oui, je trouve ça infantilisant, je trouve ça nous demande de jouer des jeux de rôle, infantilisant, qui nous coûte tout simplement, quoi, tu vois, on est devenus des adultes, on a des boulots, on a des familles, on doit être au rendez-vous, on est au contact avec ce qu'on appelle la réalité, qu'elle soit de nature illusoire ou pas, on fait contact avec tout ça et on doit assurer et quelque part, en fait, qu'on nous propose des techniques qui nous demandent de jouer à des rôles auxquels on a du mal à croire, parce que juste on a du mal à y croire, c'est tout. S'agenouiller devant son enfant intérieur pour le prendre dans ses bras et accueillir ses émotions, ça sonne pas avec qui nous sommes aujourd'hui. Donc je voudrais juste nous rappeler que ce sont des images et que d'accepter en fait l'idée de l'enfant intérieur, il s'agit en réalité d'accepter d'avoir enregistré des émotions qui nous blessent encore 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard. Mais on n'est pas obligé de rentrer, si tu veux, dans cet angle de vue qui est presque un jeu de rôle auquel on ne croira pas, qui ne fonctionne pas. Donc j'aurais envie qu'on puisse se poser ces questions-là, mais sans avoir besoin de se coller au plafond, de se mettre à utiliser des termes bizarres, à jouer des rôles bizarres, et qu'on puisse le prendre avec simplement des rôles d'adultes responsables qui tiennent compte d'avoir vécu une enfance et que cette enfance ait joué un rôle dans la construction de l'adulte qu'ils sont. Bien sûr, c'est tout ça est évident, mais attention aux images qu'on utilise parce que c'est là en fait que on accentue le fameux clivage que j'aimerais réunir. On n'est pas soit cartésien, soit perché. C'est dans le monde du où. Nous sommes des êtres humains et les êtres humains ont les pieds sur terre, ont des responsabilités et peuvent également se poser des questions, réfléchir sur eux.
Mais je pense quand même à des travaux type constellation familiale ou à travers des jeux de clowns où on peut aussi quand même se remettre dans la peau de certains personnages qu'on a joués dans notre enfance, etc. Et en effet miroir, travailler ces charges émotionnelles avec d'autres adultes pour justement re-ressentir l'émotion et pouvoir peut-être rejouer certaines scènes. Ça semble parfois assez efficace malgré tout.
J'ai aucun doute sur l'efficacité de ça. Je pense que ça fait du bien de rejouer effectivement des situations qui peuvent nous permettre une catharsis, c'est-à-dire un déblocage de certaines émotions enfouies qui referaient surface et feraient du bien en fait de ne plus porter en silence. Donc évidemment, je trouve ça intéressant. Je suis content que certains pratiquent tout ça. Je me dis juste qu'on a un sacré boulot avant ça. Moi, je vois des gens faire leur démarche de thérapie comme si, en fait, le besoin de réussir leur vie nécessitait aujourd'hui d'y ajouter de la spiritualité dans une démarche de nettoyage, de purification, de déblayage, d'allègement du fardeau. Et comme je viens de le dire, je trouve ça intéressant. Et ce que je trouve bizarre, en fait, si tu veux, c'est que ces démarches sont des démarches qui sont engagées alors même que la guerre continue de faire rage dans leur système. C'est-à-dire que je vais me retrouver avec des gens qui vont chercher à travailler sur eux pour améliorer leur relation de couple, leur relation à l'argent, leur efficacité dans leur vie, obtenir ce qu'ils veulent pour réunir ce qu'ils appelleront ensuite la réussite, etc., etc. Je les vois dans cette démarche-là, mais il y a un truc qui est, comme qui dirait, en amont, qui n'est pas du tout regardé, qui est justement dû à ce monde du « où on va avoir donc toute une démarche de guérison, de transcendance, etc., etc., mais qui n'aura pas, qui sera construite sur un personnage qui, lui, continue de faire guerre. C'est-à-dire, je viens pour améliorer mes relations de couple, mais j'ai la haine après mon père parce que quand j'étais gamin, il a dit ça et j'ai interprété comme ça et nani et nana. Et les choses sont pas autrement. Je viens pour régler mes problèmes d'argent, mais je voudrais surtout pas être comme ma mère parce que franchement, être comme ma mère, c'est le pire qui puisse m'arriver. Je voudrais améliorer ma situation professionnelle, mais je suis incapable de reconnaître que j'ai peur d'être incompétent, que j'ai, enfin, si tu veux, on fait des démarches de guérison, de transcendance et tout le pataquès, alors qu'on n'a même pas commencé simplement d'en finir avec, oui, d'aller à la cave, mais si tu veux, d'en finir avec, je suis une bonne personne puisque les personnes autour de moi sont mauvaises. Tant qu'on n'a pas attaqué ce truc-là, c'est-à-dire qu'on est dans le monde du « où mon père est soit une bonne personne, soit un con, soit ma mère est une bonne personne, soit une conne », tant qu'on n'a pas regardé les choses autrement chez eux, qu'est-ce que vous voulez voir chez vous ? C'est nul et non avenu, ça sert à rien. Tu vas faire un travail sur toi, moi je les ai les gens, après 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans parfois de développement personnel, premier sujet qui y sort, la haine, le ressentiment, la guerre, la division… Et ça sert à rien hein, de chercher à guérir d'émotions du passé si tous les jours de ma vie, j'en fabrique des nouvelles. En fait, j'essaye de nettoyer ma mémoire cellulaire de ce que j'ai enregistré dans l'enfance en continuant d'agir comme un enfant. Ça marche pas. D'abord, avant d'aller guérir mes trucs de l'enfance et d'aller revisiter tout ça, est-ce que je peux pas me comporter en adulte et donc reconnaître que mes parents ne sont ni bien ni mal, ma frangine n'est ni bien ni mal, mon frangin n'est ni bien ni mal. Ils sont des humains avec leur haut, leur bas, leur force, leur faiblesse, une totalité. Et cette totalité, tant qu'elle n'est pas acceptable à mes yeux, comment je vais vouloir moi-même m'accepter et en plus faire du développement personnel là-dessus, ça me paraît complètement... à l'envers.
Qu'est-ce que toi tu parles aussi de d'accueillir, d'ouvrir en fait à une nouvelle voie qui serait ni le je ni le tu, mais sans forcément renoncer à sa propre à qui nous sommes. Hein. L'idée n'est pas de s'écraser devant l'opinion de l'autre, mais d'ouvrir une troisième voie, une autre perspective. Est-ce que ce serait le nous, ce serait encore autre chose? C'est-à-dire de pas être, de dire et si finalement aussi je renonçais à mon contrôle et à ma vision et à imposer quelque chose.
C'est mieux que ça, Anne. C'est dans l'air du temps. C'est ni je ni tu. C'est moi aussi. C'est-à-dire que on est en plein dans l'ère MeToo. Et c'est pas pour rien. On est dans l'ère moi aussi. C'est-à-dire que moi aussi, ça doit signifier, non pas comme c'est sous-entendu dans le hashtag MeToo, pour moi, c'est dans une magnifique inconscience que ce hashtag fait le tour du monde et qu'il a autant de puissance. C'est parce que moi aussi signifie je suis capable d'entendre ton point de vue, d'aller me mettre dans ton regard et de comprendre que de là où tu parles, tu es sincère. Ça signifie en fait que je ne cherche plus à opposer la réalité pour chercher qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui est faux. Ça, c'est le monde du « où ». Je veux aller dans le monde du « et », où les choses sont vraies et sont fausses selon là où on se place pour les regarder, selon l'angle de vue qu'on choisit, selon d'où on vient, etc., etc. Et que dans cette perspective, l'idée n'est plus dans une discussion de chercher lequel de nous deux a raison, mais d'où es-tu en train de regarder et d'où suis-je en train de regarder ? C'est toi et moi, en fait, il n'y en a pas un de nous deux qui est le bon et l'autre le méchant. Toi et moi parlons depuis le seuil de nous-mêmes, avec nos enregistrements, nos croyances, nos traumas, nos blessures, qui nous sommes, qui nous voulons être, etc., etc. Donc, purée, c'est vraiment dans tu vois, je veux raccourcir toutes mes phrases, j'ai tellement peur d'être chiant que j'y vais avec du etc. tout le temps. Mais c'est dans cette perspective, pour moi, qu'on arrive dans le monde du je vois ça, tu vois ça, et je ne vais pas entrer en guerre contre toi, je vais plutôt aller voir d'où tu regardes pour que ce que tu sois en train d'exprimer soit vrai. Et une fois que j'ai vu d'où tu regardes, je peux parler avec toi sans créer un conflit parce que tu vas te sentir compris, tu vas savoir que je ne me bats pas contre toi, tu vas savoir en fait que je vois vraiment ce que tu ressens et c'est ça en fait dont on soif les humains, c'est de se sentir compris, que l'autre sache ce qu'il ressente. Notre grand drame hein, au fond en tant qu'humanité, c'est notre incapacité à faire ressentir au monde notre façon de le prendre, ce monde. Et lorsque on a quelqu'un en face qui est capable de se mettre à l'écoute, non pas dans un système binaire, c'est-à-dire de « il est comme ça » ou « il est comme ça »,« ah bah il a dit qu'il était comme ça, mais en fait il est comme ça », etc. Et qu'on n'est pas dans une quête de traquer l'autre pour voir là où ça pêche, pour voir là où ça manque, de traquer l'autre pour voir là où il n'est pas congruent, là où il est, etc. Mais qu'on est plutôt dans une démarche sincère de comprendre le monde de l'autre, on finit par ressentir ce qu'il ressent. Et là, on n'a plus besoin de se battre et on agrandit notre monde, on élargit notre perspective.
Par rapport à cette idée de se battre, ça veut dire quoi ce que tu dis, par exemple, par rapport à opposer une force, une forme de résistance à certains mouvements, par exemple ? Je pense évidemment à un pays qui est envahi par un autre, où il y a plus clairement, on va dire, un envahisseur, un envahi, ou un colon, un colonisé, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà, je pense évidemment à tous les militants en disant ça, hein, qui opposent une force de résistance. Je pense, j'avais posé cette question au fondateur de Sea Shepherd, là, dont le nom m'échappe, cette grande figure de la lutte contre le massacre des baleines, en disant est-ce qu'on peut aller en dialogue avec certaines forces pour comprendre l'autre et être du coup dans quelque chose de plus compréhensif, pacifiste d'une certaine manière, ou parfois il faut être justement dans l'opposition.
Une fois de plus, la bonne réponse, c'est les deux. C'est-à-dire que pour moi, comprendre l'autre ne signifie pas tendre l'autre joue. Comprendre l'autre ne signifie pas ah ben ok, puisque je te comprends, vas-y, tu peux dérouler ton truc. Parce que déjà tu prends un exemple un tout petit peu puissant, c'est-à-dire qu'il y a moyen d'abord dans une vie de famille de pas prendre l'autre pour un chasseur de baleines. Hein, on n'est pas obligé d'éradiquer son conjoint parce qu'il ne pense pas comme on a envie qu'il pense. Mais pour ce qui est du militantisme et de l'engagement, etc., je considère en fait que l'engagement, il doit correspondre à ce que vous avez envie de dire de vous. C'est-à-dire que pour moi, il y a deux sortes d'engagement, Anne. Il y a l'engagement qui est le bien voulant éradiquer le mal. Et ça, pour moi, ça n'aboutit toujours qu'à la guerre. C'est-à-dire, je suis gentil proche des animaux qui veut éradiquer le méchant chasseur. Ça aboutira toujours, à mon sens, à de la guerre, parce que lorsqu'on cherche à éradiquer le mal, on cherche à éradiquer le bien. Tant qu'on n'aura pas compris ça, on n'aura rien compris. Tout ce que vous pouvez observer sur la planète de mal, chaque personne qui tient un fusil sur la planète est quelqu'un qui est mandaté par le bien, qui se revendique du bien, qui est sûr de son droit, sûr du bien. C'est lorsque le bien est en marche, à mon sens, il devient le mal. Lorsque le bien est dans une démarche d'évangélisation, il devient le mal. Ce que je veux dire par là, c'est que si je cherche à éradiquer le mal, je cherche à éradiquer la moitié de la planète sur laquelle l'autre est construite. Le bien est fonction du mal, le mal est fonction du bien. Quand j'en enlève un, j'enlève les deux. Si on enlève la guerre, on enlève la paix, et il faudrait pas enlever la guerre aux pacifistes. Parce que, en fait, je me demande ce qu'ils deviendraient. L'idée, pour moi, c'est plutôt de voir, en fait, ce qui dit qui je suis, ce qui dit qui j'ai envie d'être. Si je m'engage contre la mort des baleines, ça n'est pas parce que c'est mal, c'est parce que ça dit qui je suis. C'est parce que la personne que je suis ne souhaite pas, je ne suis pas en croisade, je ne suis pas le bien en croisade, je ne suis pas le bien qui va révolutionner le monde en éradiquant ce qu'il qualifie de mal. Je suis qui je suis, et lutter contre la mort des baleines, ça exprime qui je suis, ça dit mon nom. Et pour moi, il y a une énorme différence au niveau du moteur. Il y a dans le moteur, soit je fais les choses parce qu'elles sont une possibilité pour moi de m'exprimer sur cette belle planète, soit elles sont une tentative pour moi de justifier mes désirs de violence, mes désirs de haine, mon ressentiment, mes peurs, et de partir en croisade, mais en étant équipé par le bien, soutenu par le bien. Et pour moi, ça, même soutenu par le bien, ça n'aboutira qu'à une guerre. J'aime aussi rappeler à nos esprits binaires que celui qui a laissé la trace sur notre planète comme étant le plus grand faiseur de mal de tous les temps, nous on l'appelle Hitler, c'est quelqu'un qui n'a pas motivé des millions et des millions de personnes sur l'idée de dire « venez, nous allons incarner le mal pour les générations futures. Nous serons le mal dans la mémoire des hommes. » Mais bel et bien une démarche qualifiée de bien depuis là où il regardait avec sa vision. C'est-à-dire que je crois, après je suis loin d'être historien, mais que la démarche d'Hitler, c'était on va faire un monde où il y aura du travail pour tous, tout le monde sera en bonne santé, tout le monde aura un bout de terrain, tout le monde pourra faire pousser ses enfants dans un monde sécurisé. Il a donc cherché à se dire qu'est-ce qui pourrait empêcher ça. Il a identifié ce qu'il appelait le mal, en l'occurrence les Juifs, et il a dit « je vais éradiquer le mal de la planète pour qu'enfin nous vivions dans le bien ». Et on se souvient donc de cette démarche de bienfaisance qui a donc abouti au pire cauchemar qu'on ait pu vivre. Et si on se rappelle de ça, on doit remettre en cause nos certitudes lorsqu'on est en croisade pour le bien, quel que soit le niveau auquel on soit en train de produire ça. Je pense que ça peut être intéressant de se poser la question.
Quand je t'écoute, je peux pas m'empêcher évidemment de penser au psychiatre suisse Carl Gustav Jung, hein, qui en observant et en étudiant pendant plus de 10 ans l'alchimie de cette transformation du plomb en or, donc physique, en fait, est arrivé à cette idée du processus d'individuation, c'est-à-dire la réalisation du soi, qui était pour lui parvenir à l'union des contraires. Donc quand je t'entends, évidemment, je pense à ça.
Oh ben, je suis content de rejoindre Jung, donc j'imagine en fait que lui a vraiment bossé, contrairement à moi.
Il était beaucoup dans le, justement comme toi, c'est pour ça que je pense, effectivement il était psychiatre, ce que tu n'es pas, mais il a été beaucoup critiqué aussi parce qu'il était vraiment dans l'expérience, à la fois de sa propre expérience, mais aussi évidemment du vécu de ses patients.
Lorsque un monde s'effondre, il résiste. Le monde du « ou », il va vraiment passer à la trappe et il va résister. Et quand le monde du « ou » résiste, ce qu'on va observer, nous, c'est une plus grande polarisation de nos sociétés. C'est-à-dire où le pour et le contre vont s'opposer sauvagement et les postures vont être de plus en plus extrêmes. Et évidemment, il y a des gens qui vont hurler et s'insurger. On n'a pas le droit de vouloir réunir les mondes. On doit choisir un camp, le tenir et se battre bec et ongles. Et si jamais on est capable de dire les choses sont nuancées aujourd'hui, c'est devenu interdit. On n'a plus le droit de nuancer. On doit avoir un avis tranché, on doit s'insurger sur commande, on doit réagir émotionnellement à tout ce que nos petits cerveaux populistes nous proposent. Et donc, effectivement, il va y avoir une résistance de l'ancien monde, exactement comme... pour moi, l'image la plus probante dans cette affaire, tu vois, c'est cette union des sexes où avant on n'avait que deux choix, être un homme ou une femme. Et aujourd'hui, dans ce monde, on peut être un homme et une femme. Et il y aura encore beaucoup d'esprits binaires qui ont une telle terreur de Dieu, parce que c'est ça qui se cache en dessous en plus, qu'ils voudront absolument être du côté du bien. Et il y en a pour qui c'est une véritable terreur que l'idée d'accepter, en fait, qu'on puisse être les deux, être du monde du « et », être dans la nuance, être ceci et cela. Donc, oui. En général, hein, ce qu'on va nous opposer, c'est ce qu'il y a de plus horrible, de plus inexplicable, c'est-à-dire que simplement pour ne pas avoir dans sa vie à assumer la responsabilité, par exemple, d'être radin et généreux, et de pouvoir reconnaître un truc aussi bête que ça, eh bien, pour ne pas entrer dans cette responsabilité, pour ne pas assumer ça, on va aller chercher des exemples extrêmement violents. Donc, on va nous sortir et on va instrumentaliser, par exemple, la pédophilie de manière à pouvoir dire « Ah, tu vois, personne ne peut ne pas avoir un avis tranché là-dessus. Donc, forcément, tu vois, cet exemple montre bien que… » Et ça permet à chacun d'utiliser ce qui est fait de plus douloureux, de plus horrible à nos frères humains pour se dédouaner dans sa petite vie tranquille, face à sa maman, face à son papa, face à son patron, face à son couple, de devoir simplement assumer d'être un être nuancé, multiple, et pas si manichéen que ça.
Ça nous invite, par exemple, à aller regarder en chacun de nous la graine de pédocriminel qui peut sommeiller quelque part. C'est un peu fort ce que je dis, mais c'est ça aussi.
Non, je vais pas... justement, en fait, c'est pas par là qu'il faut le prendre. Il faut simplement se rappeler que les attitudes pathologiques, les attitudes de personnes malades doivent être considérées comme des maladies et donc comme étant le symptôme déjà d'une société qui interdit la nuance, qui nous pousse d'une force incroyable à incarner le bien et à mettre énormément de part de soi en déni, ce qui aboutit à évidemment des tonnes de cancers, mais également à des maladies plus incompréhensibles pour nous, comme la pédophilie, comme...
toutes les violences extrêmes, ouais.
Les violences extrêmes, mais qui, à mon sens, doivent être considérées comme des maladies. Et utiliser les maladies en exemple, alors qu'elles sont déjà le symptôme, me paraît complètement... de mauvaise foi.
Alors j'aimerais bien qu'on revienne sur cette idée de hommes et femmes et de non-binaires. Et puis ensuite aussi, par rapport à ce que tu viens de dire, j'aimerais bien rebondir aussi par rapport aux enfants. Parce que c'est vrai que dans une éducation, cette histoire de « et » n'est pas toujours évidente. C'est-à-dire qu'à quel moment j'accueille et je leur permets de voir ce « et à quel moment il y a des limites et qui peuvent être aussi les limites pathologiques justement de la société. Et je dis « stop ». Là, par exemple, on a toute cette polémique en ce moment autour du fameux jeu Squid Games. Est-ce qu'il faut dire, finalement, moi, je le montre à un enfant de 12 ans, 13 ans, parce qu'on peut être dans le « et », voir cette violence, ça fait aussi partie d'un certain nombre de choses. Et où est-ce qu'il y a des cadres à poser et des limites?
Moi, je suis pour le cadre.
Toi, tu es papa tu élèves 5 enfants, hein, donc je le précise pour nos auditrices et nos auditeurs, je pense que ce n'est pas un secret.
Oui, oui, je suis, en tant que parent, je suis pour le cadre. Et si je pose un cadre, c'est dans l'espoir et la peur qu'il le dépasse. C'est-à-dire que je fais en sorte de, dans ma relation avec mes enfants, de leur poser le cadre nécessaire à ce qu'ils puissent devenir des adultes. Donc, je vous fais pas la liste, vous savez ce dont vous avez à vous occuper. Mais lorsque je pose ce cadre, je le pose pour qu'il soit transgressé, ce cadre. Je sais que mes enfants, comme tous les autres humains, vont avoir envie de se confronter aux défis, de surmonter les épreuves, de transgresser les interdits. Et en fait, je les aide à se construire aussi là-dedans. Donc, quand je pose un cadre, un peu plus restreint que ma capacité d'accepter. Donc, je pose un cadre un peu plus petit que ma façon de penser, de manière à pouvoir les regarder transgresser ce cadre sans que d'un seul coup je grimpe au rideau pour passer du parent hippie au parent facho. Je vois beaucoup de gens qui sont sur le dos de leurs enfants occupés à surtout ne leur créer aucun traumatisme. Donc, une vie lisse, un billard, sans la moindre vaguelette, en imaginant, en fait, évidemment, que les traumas sont forcément négatif, que en fait il n'y a aucun trésor pour un être humain à enregistrer des choses et en faire l'expérience. Mais là où c'est vraiment formidable, c'est que il y a un espèce de truc du type je serai jamais comme ma mère, et moi je serai donc pour jamais être comme ma mère, qui est forcément donc une mauvaise mère, hein, toujours le clivage du où je suis le bien parce qu'elle est le mal. Donc pour devenir une bonne mère, aujourd'hui t'as qu'une seule solution, c'est être meilleur que ta mauvaise mère, par exemple. Et dans cette perspective, je vais ensuite élever mon enfant en pensant qu'il va écouter ce que je dis, alors que vos enfants écoutent ce que vous faites. Ce que je veux dire par là, c'est que tant que toi, t'es en guerre avec ta mère, tu peux élever ton enfant comme tu veux. Lui, ce qu'il enregistre, c'est les enfants peuvent être en guerre contre leurs parents. Les parents sont des mauvais parents. Il est bien de punir les parents en coupant les ponts. Il est bien de... et ainsi de suite. Donc en fait, si tu veux, pour moi, éduquer mes enfants, ça me demande surtout de lever le nez et de voir comment je me comporte avec mes parents, parce que mes enfants vont se comporter comme ça avec moi.
Ouais, ça me touche beaucoup ce que tu dis, moi qui ai aussi des enfants. C'est vrai que c'est là, il y a tout un champ exploratoire encore. On pourrait faire un podcast à part entière, voire même plusieurs. Sur ce sujet-là, revenons sur cette idée de binaire, puisque justement c'est très dans l'air du temps, hein, être non binaire. Est-ce que finalement être non binaire, c'est être humain et c'est d'accueillir ces polarités en nous? En fait, on est homme et femme. On n'est ni homme ni femme, ou et homme et femme. En fait, il y a tout ça qui cohabite.
Oui, il y a tout ça. Et en fait, justement, sortir du monde binaire, c'est aussi ne pas accepter. C'est-à-dire que je crois que tu utilises le mot d'accueil, et accueillir en soi, c'est une des propositions. On peut aussi rejeter. Si on va loin dans cette liberté qu'a l'être humain, il faut se rappeler en fait de quelque chose qui peut aider tout le monde à réunir sa dualité pour en faire une expérience totale, une expérience d'unité, c'est de comprendre que les choses ne sont pas définitives. Lorsque je dis quelque chose à propos de moi, ou que j'ai une attitude, elle me concerne, moi, dans cet instant, et elles ne veulent rien de dire de qui je serai dans un an, dans deux ans, dans six mois, dans dix ans, c'est pas aussi définitif. Et c'est en fait le caractère définitif de nos postures, où on croit en fait qu'à chaque instant on doit s'exprimer pour l'éternité, qui fait qu'on ne se permet pas la multiplicité, on ne se permet pas d'être tour à tour ceci et cela. On croit en fait que d'être quelque chose nous enferme, nous définit et nous cadre pour la nuit des temps. Et là, ça devient très compliqué d'accepter cette souplesse de pouvoir être tour à tour courageux ou lâche, fiable ou abandonnant, et ainsi de suite. Ce qui te permet la liberté d'incarner tour à tour toutes les facettes nécessaires à l'expression de l'humanité, c'est de se souvenir que ça n'a rien de définitif. Il ne s'agit que d'une expression de soi à un moment donné qui... ce qui est le jeu sur cette planète. On vient s'exprimer et ça peut être plus léger que ça.
Et ce faisant, permettant aussi à l'autre de le faire en effet miroir.
Ah ben évidemment, ce que moi je m'autorise d'être, de respirer, je l'autorise à l'autre également. Et c'est comme ça qu'on peut entrer dans le monde de la permission, c'est-à-dire de permettre à l'autre de voir la vie comme il la voit. C'est quand même curieux ce truc d'interdire aux gens de voir la vie comme ils la voient, de vouloir absolument qu'ils se rendent compte, qu'ils prennent conscience que nous avons la vérité, que nous avons le bon axe de vie. C'est quand même assez sidérant cette certitude. Et ce qui est, c'est fou parce que quand on l'observe à l'extérieur, et quand on voit quelqu'un essayer de nous convaincre de son monde, on a envie de le relâcher tout de suite. On a envie de lui dire mais non, mais détends-toi mon grand, tout va bien se passer. Je suis pas obligé d'acheter ta vision du monde. Mais alors quand on exporte la nôtre, quelle virulence, quel besoin de convaincre, quelle force, quel déni. C'est incroyable.
En fait, tu pourrais faire tienne cette phrase « Je sais aussi que je ne sais rien par rapport à la vérité ». Et comment est-ce que tu as incarné tout ça, toi, dans ta vie, justement ? À quel moment, dans tout ton cheminement, c'est venu comme une évidence ? Parce que c'est vrai, on le disait tout à l'heure, on parlait de Jung. Justement, toi, contrairement à d'autres penseurs contemporains, tu n'as pas de formation, donc tu n'as pas un calque d'une pensée apprise lors d'études, etc. Donc, c'est vraiment, tu pars de ton expérience. À quel moment ça s'est vraiment incarné, tout ça, cette façon d'être ?
C'est très perso après, Anna, je ne peux pas, je peux pas étayer, hein, c'est simplement comment j'ai pris les choses, mais en fait, un jour, j'ai compris que malgré l'aspect parfaitement réel de l'expérience humaine, j'étais le seul à regarder le monde comme je le regardais et qu'il n'y avait pas deux humains qui percevaient le rouge ou le bleu de la même façon. Et j'ai compris en fait qu'on était face à un champ qu'on pourrait qualifier de quantique, de milliards de réalités, de potentialités. Sans cesse en expansion et en comme une proposition, une créance, une possibilité pour chaque humain de se saisir d'un des potentiels et d'en faire l'expérience. À un moment donné, j'ai cessé de croire que le monde était réel, qu'il y avait des gens qui disaient vrai, des gens qui disaient faux. J'ai compris en fait que la matière devait doucement rigoler de comment on lui on déposait chez elle quelque chose d'archi définitif, de sûr, comme si en fait le monde ne pouvait souffrir qu'une seule lecture, comme s'il y avait une vérité absolue. Et ce qui est dingue en fait, c'est d'imaginer qu'il y ait une vérité tangible, absolue, des certitudes, et qu'on n'ait jamais découvert ces certitudes, qu'on soit toujours dans un monde où les angles de vue continuent de s'entrecroiser, les perspectives de se superposer les unes aux autres, etc.
Et qu'on n'apprend pas tellement de nos histoires, finalement.
Ah bah non, on n'apprend pas, on continue de penser que l'autre se trompe et que nous, on est face à la réalité parce que nous, on a les chiffres. Et voilà, quoi, c'est, pour moi, le monde a basculé lorsque j'ai entendu un jour je crois que c'est une expérience du CERN où des gens qui cherchaient à observer le fonctionnement des particules se sont aperçus que les particules ne se comportaient pas de la même manière lorsqu'on les observait et lorsqu'on ne les observait pas. Donc ce sont des scientifiques qui m'ont bougé en fait et qui m'ont amené à regarder le monde autrement. Et attention, on n'a qu'un seul mot, mais pour moi, il y a deux notions totalement opposées pour ce qui est de la science. Pour moi, un scientifique, c'est quelqu'un donc qui doute tout le temps et qui continue de douter et crée des nouvelles questions qui amènent encore plus de doutes. Et ça, pour moi, ce sont des scientifiques. Et puis, il y a ceux qui ne doutent pas et qui portent parfois des blouses blanches, qui, eux, sont les savants ou les sachants, et qui, pour moi, n'ont absolument rien à voir avec des scientifiques. La science est en constante remise en question, recherche, et c'est parfaitement que la certitude du jour, c'est l'obstacle de demain. Et moi, c'est eux que j'aime écouter. C'est là, en fait, que moi, mon monde a bougé. C'est quand j'ai compris que ces gens qui cherchaient, creusaient, qui avaient des outils pour ça, et qui l'intelligence pour ça, etc., etc., eux doutaient, ne savaient rien. Et ne pouvait pas encore déterminer les règles, même certaines règles physiques de ce monde sont encore remises en question, rebousculées. Et c'est par là que je l'ai pris. Pour moi, en fait, leur discours était d'une telle spiritualité que je ne pouvais plus désunir les deux mondes. Il n'y a pas le monde de la science et le monde de la spiritualité. C'est le même monde. C'est absolument le même monde. On parle des mêmes choses, on parle des mêmes doutes, on parle de la même expérience. Et ça m'a amené à concevoir l'unité non plus comme étant la division, c'est-à-dire choisir son camp, camarade, pour avoir le sentiment d'être un, comme s'il fallait que j'éradique tout ce qui était l'inverse de ce un. Donc je croyais au départ que l'unité, c'était incarner le bien. Et j'ai compris en fait que l'unité, c'était incarner le bien et le mal, incarner les deux, et ne plus savoir était peut-être la meilleure manière de savoir aujourd'hui.
Mais merci pour cette belle conclusion, Franck Lobvay. J'ai envie de te citer ton livre, Ton autre vie, avec cette phrase qui résume bien finalement aussi ce que tu viens de dire. Ces trois trésors, me connaître, me guérir et me créer, sont disponibles à chacun, à chaque instant, sans avoir besoin justement d'en être conscient. Je ne sais pas si tu as envie de réagir dessus.
Eh bien, écoute, j'espère que ça donnera aux gens envie de lire ce livre et de savoir pourquoi je le conclue comme ça.
Oui, c'est ça. Merci infiniment, Franck Lobvay. Alors justement, je rappelle le titre de ce livre qui cartonne en librairie, qui s'appelle « Ton autre vie » aux éditions Erol, que j'ai eu la joie de publier, je le dis aussi. Un livre précieux, je trouve, à offrir et à s'offrir, qui se lit à la fois très vite, mais qui se prend et qui se reprend. Vous pouvez aussi retrouver toutes les infos, les stages et l'actualité de Franck Lobvay sur son site internet, francklobvay.com, et sur sa chaîne YouTube éponyme. Merci beaucoup, Franck.
Merci beaucoup, Anne, et merci à tous ceux qui nous écoutent à chaque fois. Ça fait chaud au cœur.
Ouais,
merci
beaucoup. Sûr. Merci à vous tous aussi, à nos auditrices et nos auditeurs. À bientôt.
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Retrouvez en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose Éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol, ainsi que mon tout nouvel oracle du Scarabée d'Or chez le même éditeur. Et enfin, pour nous soutenir, participer au cercle de discussion ou rencontrer en direct nos invités, rejoignez dès maintenant la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci.
Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.
Bonjour, c'est Anne Guéquière. Alors, je suis ravie aujourd'hui de vous annoncer une grande nouveauté si vous envisagez de rejoindre la tribu Métamorphose. Vous le savez peut-être, la tribu, c'est un moyen de nous soutenir financièrement, moyennant un petit abonnement mensuel. Votre soutien financier est très important, car il assure l'indépendance et la pérennité de notre podcast. Et maintenant, en signe de notre profonde appréciation, l'adhésion à la tribu vous donne aussi un accès à nos programmes de coaching exclusifs, Objectif Métamorphose, un bouquet d'une douzaine de programmes de coaching 100% audio que nous avons conçu avec des experts de renom pour guider votre évolution personnelle sur une gamme étendue de sujets comme l'hypersensibilité, le bien-être dans votre couple, la gestion de vos émotions ou bien l'enfant intérieur, le transgénérationnel, etc. En devenant membre de la tribu, vous ne soutenez pas seulement Métamorphose, vous investissez donc aussi dans votre propre parcours de transformation. Pour rejoindre la tribu, rendez-vous dès maintenant sur notre site Métamorphose Podcast, rubrique La Tribu. Un immense merci les amis pour votre fidélité et votre soutien.